cinquième chapitre, page 25, 24.
24.
Shor Shenagar et Adam Vamet. S'il y a un taureau qui a encorné un homme. Jusqu'à présent, c'était des taureaux qui ont encorné d'autres taureaux. Là maintenant, la différence, c'est que c'est un taureau qui va encorner un homme. Suite à quoi, Vamet, l'homme est mort. C'est un coup mortel. Mouad, Meshalem Kofer. Donc on ne saura pas toujours la différence entre Tam et Mouad. Mouad, ça veut dire, c'est un taureau qui est averti. Enfin, le propriétaire est averti. Tam, c'est quand le propriétaire n'est pas averti. Donc, Mouad, Meshalem Kofer. Si le propriétaire du taureau était averti, alors bien sûr pas averti pour tuer des hommes, parce que on va voir que dans tous les cas, le taureau doit être mis à mort. Mais averti, ça veut dire qu'il a l'habitude d'endommager, il a l'habitude de frapper. Donc si le taureau a l'habitude de frapper, c'est quoi le din? Meshalem kofer, il devra payer kofer. C'est quoi kofer? Kofer, la Gemara explique, d'accord? C'est écrit kechol, comme c'est écrit dans la parasha Mishpatim, kechol asher yushat alav. Ça veut dire que tout ce que le beddin lui imposera. Qu'est-ce que va faire le beddin? Le beddin va essayer d'évaluer combien vaut la personne qui a été tuée. Alors bien sûr, vous allez me dire, pas de valeur, d'accord? Mais on va essayer d'analyser en valeur financière. C'est-à-dire, ça dépend, est-ce qu'il a une famille, est-ce qu'il a pas de famille, est-ce qu'il a des enfants, est-ce que, etc. Donc, par rapport à ça, le beddin va déterminer une valeur, dommage et intérêt, et cette valeur-là, il sera obligé de la payer. Le propriétaire du taureau. D'accord? Alors, une des options pour expliquer comment il est mouad, puisque la Gemara pose la question très simple, même si le taureau a endommagé, et même si le taureau a endommagé d'autres animaux, le propriétaire du taureau pourra toujours se défendre en disant, j'ai fait attention qu'il ne rencontre pas d'autres animaux, mais jamais j'aurais pensé, vous êtes fini?
Il veut payer la tzedaka de Rosh Hashanah.
Ah, ok.
You pay? You do it? Ah oui, c'est pas le trésorier?
Si, oui, c'est Mr. Osman.
Okay.
Il est trésorier.
Le baron.
Alors, tu entends le trésorier? Ah, j'ai besoin de jouer. Ça fait... Tu ne comprends bien en anglais, ça fait... Comme si il y avait des trésors.
Le trésor, on y est, hein.
Ah oui, on y est. Donc, peut-être que le propriétaire du taureau va se défendre en disant, mon taureau, c'est vrai qu'il a encorné deux, trois fois des animaux. J'ai fait attention qu'il soit jamais à proximité d'autres animaux, mais là, il a attaqué le fermier. Qu'est-ce que je fasse? Je m'attendais pas. Alors, la Gemara explique que pour que le taureau soit considéré mouad, même pour les hommes, on doit expliquer qu'il s'agit du cas suivant. On doit expliquer que le taureau a déjà mis en danger des hommes trois fois, mais sans les tuer. Mais il les a déjà mis en danger, ça veut dire qu'il n'a pas peur d'attaquer des hommes. Tant qu'il n'a pas attaqué des hommes trois fois, il n'est pas considéré mouad. Oui. Ça, c'est un principe très important à comprendre. Comme ça, c'est un principe qui n'existe pas dans les assurances, etc. Mais dans la Gemara, on a expliqué plusieurs fois qu'un taureau, il peut être mouad pour une chose et pas pour une autre. Par exemple, il peut avoir embêté trois fois les animaux, donc du coup, il faut l'écarter des animaux, mais pas des hommes, pas des enfants. Il peut être des chiens, mais pas des chats, enfin, etc. D'accord? Donc c'est pour ça que là, pour être considéré responsable, enfin averti pour un homme, il faut qu'il ait embêté trois fois des hommes. C'est beaucoup trois fois.
Ouais.
C'est beaucoup.
Pas marqué 3 ou 4?
Pardon?
C'est pas 3 ou 4? Marqué 4, 3 ou 4?
Oui, il y a 2 ou 3.
Ah, 2 ou 3.
D'accord? Ça veut dire, est-ce que c'est à partir de la troisième? Voilà. Alors, Vetam, Patour Minakofer. Mais si le taureau donc était non averti, Patour Minakofer, ça veut dire qu'il ne paye rien. Il n'a rien à payer. Même pas 50%. Il ne paye rien.
Alors qu'il y a un mort. Hein.
Alors qu'il y a un mort. Mais par contre, les évasés, les deux, ça veut dire que les deux taureaux, peu importe qu'il était Tam ou Mouad, Chayavi Mita, c'est-à-dire que les deux vont être mis à mort.
Ah ben ouais.
D'accord? Pourquoi ils vont être mis à mort? C'est quoi la logique?
Pourquoi les deux taureaux?
D'accord? Ça veut dire, oui, d'accord, non, peu importe, les deux cas, ça veut dire, dans les deux cas.
Que tu sois averti ou non,
averti
ou
non averti.
Taureau, il faut tuer un homme.
Pourquoi on le met à mort?
Parce que c'est un
tuer un humain.
Et s'il a tué un animal aussi? Un taureau criminel.
Dans le règne animal, c'est différent.
Comment ça se fait?
C'est plus logique.
D'accord. Bien, le propriétaire peut dire, écoutez, je veux m'assurer qu'il sera jamais à proximité d'un homme. Comment ça se fait qu'on va le tuer? Alors, la raison qui est expliquée dans la Gemara, et on en a Rachid d'ailleurs sur la Torah, c'est que même si le propriétaire peut garantir qu'il va protéger son taureau et que à la limite il va même faire, il va lui faire la shrita, il va le laisser, mais moi je le fais la shrita, je le garde, je crois que vous allez le mettre à mort. D'accord? La Gemara explique, c'est que, parce que sinon après les gens, quand ils vont voir ce taureau-là, ouais, ils vont dire, c'est ce taureau qui a tué cette personne. Chaque fois qu'ils vont dire, ah, c'est lui qui a tué. D'accord? C'est un mauvais chef, c'est un mauvais renom pour la personne. Même si on va le faire la shrita, on va manger sa viande, ils vont dire, ah oui, c'est la viande du taureau qui a tué un tel.
Ouais, pour le propriétaire.
Pour le,
il vaut plus rien.
Pour la personne qui était tuée, pour son échama, c'est pas bien. D'accord? On veut essayer d'effacer toute trace de ce qui s'est passé. Pour ça que.
Oui, mais on pourrait dire que le taureau intel a tué le taureau, le chien de l'autre.
Pas la même chose.
C'est
comment la Torah fait attention au respect de l'homme. Donc, quand la Torah fait attention au respect de l'homme, que pour éviter qu'une personne parle mal, on dit on le tue, et on n'a même pas le droit de récupérer, on n'a même pas le droit de récupérer sa viande.
C'est sûr. Sa viande, le reste, tout, sa carcasse, oui,
tu vois, tu te promènes dans le cimetière, et puis on te marque un nom, monsieur intel, mort.
Tué par un taureau.
Tu rigoles, quoi, presque. Alors qu'il est mort.
Vechen baben, vechen babat. Donc, on aurait pu penser, parce que la Torah, elle, quand elle nous parle du cas du taureau qui a encore né un homme, elle dit « Shor ki igor ish ». D'accord ? Elle dit un taureau qui va encore né un ish. Or, on sait très bien, qu'est-ce que c'est un ish dans la Torah chez nous ? Un ish, c'est un homme, d'accord, qui est minimum bar mitzvah. Comme c'est écrit « Vechazakta vehaïta le ish ». J'aurais pu penser que si le taureau a tué un bébé, d'accord, donc un petit garçon, une petite fille, il dit « Ah, c'est pas un ish ». On te dit non. Vechen baben, vechen babat. C'est la même chose pour un homme, c'est la même chose pour une femme. Si la Torah dit un homme, c'est parce que c'est le cas le plus fréquent. D'accord? Mais quand c'est, un être humain. Voilà. Il faut savoir que quand on dit ish ici, il faut pas comprendre ish comme un homme majeur, il faut comprendre ish comme un être humain. Et donc, tous les lois qu'on a dit ici, ça veut dire que il est mis à mort, on peut profiter, etc. Ça s'applique ici. Rien de babel, rien de babat. Comment il dit ici?
Bevat.
Bevat. Bon. Il n'y a pas de voyelle dans la Mishnah à la base, hein. Nagar Eved Ohama. Si maintenant ce taureau a encore né un esclave ou une servante cananéen. D'accord ? Donc,
non-juif.
Non-juif.
Oui, d'accord, mais... D'accord.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier ici ? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici ? D'accord ? Ce qu'il y a de particulier ici, c'est que l'esclave cananéen, n'a pas vraiment de volonté propre, il ne s'appartient pas à soi-même, il appartient à son maître. Il est considéré comme la propriété de son maître, ad vitam aeternam. D'accord ? Donc,
c'est pas un peu archaïque tout ça ?
Si, c'est quelqu'un qui existe.
Attends, qui la
Nagar Evedohama, on a regardé ça aujourd'hui, bon. Nagar Evedohama, noten shloshim slaim. Dans ce cas-là, il doit payer un forfait de 30 pièces. D'accord ? Et comme la Gemara explique, 30 pièces en général, c'était plus que la valeur de ce qu'on l'achetait sur le marché, la place du marché. C'est plus que la valeur de l'esclave. Ben Shehu Yafé Mané, ou Ben Shehu Yafé Eladina Rechal. Peu importe la valeur qu'il vaut. En moyenne, ça valait plus. Mais quoi qu'il en soit, il y a un forfait qui a été fixé par un Kadosh Baruch, qui a été fixé par la Torah, qui est un forfait de 30 slaïms.
Et le choix.
D'accord? 30 slaïms, c'est à peu près l'équivalent de 30 pièces d'argent. Voilà, si vous voulez avoir une équivalence. Non, c'est pas mal, quand même.
D'accord, mais et le short, là, non? Et
non,
la même...
là, il n'est pas mis à mort.
Quoi? S'il a heurté une petite fille ou un petit garçon, il est mis à mort.
Ouais.
Mais s'il a heurté un
enfant,
on le met au même niveau qu'un animal.
Ouais.
Non, pas tout à fait, parce qu'il doit payer une rançon.
Alors,
mais
c'est une marque dans la Gemara entre Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit que, on ne met pas à mort. Rabbi Akiva, il dit, on le met à mort quand même. D'accord? On le met à mort quand même puisqu'il a tué un homme. Puisqu'il a tué un être humain.
C'est plus logique.
D'accord? Voilà. Et les deux. En tout cas, sachez que la Torah ne le dit pas. Et autant ne le dit pas, alors qu'est-ce qu'on fait? Marloquette. En tout cas, Rabbi Akiva, il dit, d'accord? Rabbi Akiva, il dit que dans tous les cas, il faut le lapider. Je sais pas si le premier c'était Rabbi Yehuda, enfin de mémoire c'était Rabbi Yehuda.
On peut commenter le fait que le est lapidé, non pas égorgé.
Oui.
C'est la critique des.
Enfin, pour lapider un bœuf, à
mon
avis.
S'il est pas responsable, pourquoi tu vas le lapider?
L'esclavage était énorme à l'époque.
Non, mais c'est pas... On peut dire que c'est la critique des laïcs.
Attention.
Dites, Moïse, oui, là, il a donné les 10 commandements, il a tout fait.
Il faut pas oublier.
Mais a-t-il aboli l'esclavage?
J'ai compris, mais ce qu'il faut pas oublier ici, c'est qu'on parle pas, d'un esclave qu'on va acheter sur la place du marché qui a été volé. C'est-à-dire qu'on vole, Dieu préserve, il vole des hommes, et il le revend sur la place du marché. C'est pas de ça qu'on parle.
Des esclaves qui avaient besoin
non,
de...
Non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle d'esclaves, de quelqu'un qui, de son propre chef, il n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Et il dit, prenez-moi dans votre maison. D'accord. Il faut savoir que les lois de l'esclave dans la Torah, c'est des lois très très dures.
Très, très dures.
Ça veut dire que pareil, si on arrive dans une maison
et qu'il y a, deux
et qu'il y a, un, et qu'il y a couchage, un seul couchage, le maître est obligé de laisser le couchage à l'esclave, cananéen.
Donc c'est quand même une forme de respect complètement.
Bien sûr, ça n'a rien à voir.
Le mot n'est pas adapté, je pense.
Oui. Moi, l'image qui me vient en tête quand je parle qu'on voit les esclaves, j'ai l'image en tête, un petit peu, c'est pas la même chose, un petit peu comme les Thaïlandais que vous trouvez en Israël. Et les Thaïlandais qui viennent au service des personnes âgées comme ça, qui vont habiter chez eux, ils font tout, ils sont pris en charge.
Philippins.
Les Philippins ou les Thaïlandais?
Oui, plutôt les Philippins.
Bon, quoi qu'il en soit, voilà, c'est l'image. C'est la même chose, le même style. D'accord. Ah, les Thaïlandais... Il y a les Thaïlandais aussi là-bas, non?
Oui, mais eux, ils viennent pour le bâtiment.
Ah, d'accord.
Non, mais ce qui est choquant, je comprends, c'est-à-dire, ce qui est choquant, c'est que ce moment-là, tu payes comme si c'était un objet, quoi. C'est comme si le taureau avait blessé un taureau, quoi.
Non, pas tout à fait.
C'est pas la même
amende. Non, il y a un forfait.
Ouais, il y a un forfait.
C'est un forfait supplémentaire.
Pourquoi il y a un forfait? Pourquoi c'est pas la valeur? Je sais
et
pas.
Lourd,
et encore plus choquant, c'est que le taureau non averti, si jamais il tue un enfant,
oui.
Les juifs, on va dire,
sans
le problème,
il n'y a
rien, il se passe rien.
Ah si,
il est tué, le taureau.
Bien sûr qu'il est tué, mais toujours.
Le maître n'a pas d'amende.
Quoi? Le maître?
Il n'a pas d'amende.
Oui, il n'a pas d'amende. Mais c'est la plus grosse amende, tu l'enlèves son taureau.
Ouais.
Normalement, c'est 50%, mais à hauteur du taureau. Là, tu le prends le taureau, carrément. Sans la viande, sans rien.
Ça n'a pas équivalent, on prend son taureau, tu peux faire un
petit. Mais ce sont des cas qui arrivent déjà avant, ça.
Attention, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand il est non averti, d'accord, même si on le tue, quoi qu'il en soit, oui, on a dit qu'il ne paye pas le coffert, oui, donc on lui enlève son taureau.
Oui, d'accord.
Est-ce que c'est des cas fréquents? Je pense pas, non. C'est pas des cas fréquents.
Non, mais c'est important de voir que c'est pas un cas fréquent. On parle quelque chose qui n'est pas si fréquent que ça.
C'est
des cas limites, justement, qui permettent de mettre des barrières.
Moi, je trouve qu'au contraire, dans la Torah, et comme a dit la Gemara Sanhedrin, elle dit que Kone Eved, d'accord, Kana Eved Leatmo, que celui qui fait l'acquisition d'un esclave, en vérité, il devient esclave à cet esclave.
C'est ça.
Ils sont obligés.
D'accord. Parce que c'est
il a une responsabilité.
Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, un soir, il dit, bon, ce soir, on ne fait pas manger à la maison. Manger. Et pas manger ce soir. Pas se prendre la tête, fais pas manger. Car quand t'es un esclave, t'as pas le droit. T'es obligé de lui servir un plat. Tu peux pas, tu peux pas manger, je dois manger. C'est...
Alors quand tu fais kippour, tu donnes à manger à ton esclave.
Non, l'esclave, il a les mêmes lois qu'une femme. Toutes les halakhot d'une femme, c'est-à-dire toutes les misettes qui ne dépendent pas du temps, d'accord, les misettes positives qui ne dépendent pas du temps, il n'est pas assujetti. Les misettes négatives, il est toujours assujetti. Donc il est comme une femme, il doit faire kippour, faire shabbat, etc.
L'esclave, il fait kippour et shabbat.
Ouais. Mais attention, c'est un choix. C'est un choix, c'est pas parce que c'est un des 10 commandements. Vous savez, dans les 10 commandements, il y a un commandement qui dit l'otignov tu ne voleras pas. Oui, d'accord. Il y a un commandement qui dit l'otignov tu ne voleras pas. De quel vol on parle? On parle pas du vol pécunier. L'otignov, on parle du vol de voler, ce qui était malheureusement fréquent à l'époque, de voler des âmes, de voler des enfants, de voler des gens pour les revendre. C'est ça qui parle dans les 10 commandements. Le vol de l'argent, il y a un autre verset. Non.
Ah bon.
Ah ouais. Rachid dit clairement. Ouais. Il dit l'otignov, Rachid dit Begonev Nefashot Akotuv Medaber. Voilà. Dans les 10 commandements, de quoi on parlait? On parlait du vol
de l'âme,
du vol humain. Le vol pécunier, c'est un autre verset qui n'est pas dans les 10 commandements.
Le problème, c'est le mot esclave qui est une mauvaise traduction.
Non, il n'a pas la même signification.
Parce que sur, voilà, parce que l'esclave, c'est pas ça, c'est gens que tu voles justement et que arbitrairement.
Ça c'est clair.
Comment on dit en hébreu?
Eved. Non,
Eved.
Eved, c'est Avoda.
Serviteur. Serviteur, c'est.
Oui, mais il peut y avoir le sarir, le salarié, pas le sarié.
Mais non, mais c'est un mot magnifique, Eved. Pas sûr que tout le monde connaît.
Avoda.
Non, mais c'est, on peut. La grande différence entre l'esclave et nous qui sommes serviteurs de Dieu, c'est que dans un cas, nous sommes serviteurs volontaires,
oui.
Alors que l'esclave, lui, est.
Parfois, il était volontaire.
Oui.
Et ce qui nous rend.
C'est pas parfois.
De la sortie d'Égypte, nous étions esclaves, Eved, après le mont Sinaï, où nous devenons serviteurs de Dieu, il n'y a aucune différence dans les deux cas. Avant, nous étions esclaves de Pharaon involontairement, maintenant,
ouais.
Nous devenons serviteurs de Dieu volontairement.
Alors, on a quand même.
C'est la conscience.
On a quand même des esclaves involontaires, des serviteurs involontaires.
Ceux qui sont nés.
Comment? Voilà.
Ceux qui sont nés dans une famille.
Oui. C'est-à-dire ceux qui sont nés issus donc de père et de mère serviteurs, esclaves, ils deviennent esclaves, même s'ils ne veulent pas.
Voilà.
D'accord. Là, c'est peut-être qu'ils sont pas d'accord, mais c'est comme ça.
Ils ont moyen de sortir de ce statut ou pas?
Ils ont moyen de sortir au bout de... Ils ont
non,
moyen
les
enfants.
Les enfants aussi?
Non, 7 ans, c'est l'esclave hébreu. 7 ans, c'est l'esclave
normal.
L'esclave juif.
Et alors?
Ils ont moyen de sortir dès que la 50e année arrive. Pas la 50e année de l'esclavage, la 50e année du cycle du Yovel. Ah,
c'est...
D'accord, c'est
celui qui a servi 49 ans.
Bon, mais ceci dit, celui qui naît dans une famille d'esclaves, ça le dérange pas.
Il est conditionné.
Celui qui naît. Normalement, à moins qu'il sorte un petit peu de ce qu'on l'a éduqué, mais normalement,
Moshé, ça le dérange pas. Moshé, il est né dans une famille et il est sorti de cette famille.
Voilà.
Voilà. Donc, tu vois, il était pourtant
ça
bien.
Ça le dérange pas. Oh, il a fait un meurtre. Ok, alors on y va, on continue. Shor Shaya Mitraker Bakotel. Toujours dans le cas des meurtres, du meurtre des hommes. Donc, imaginez-vous maintenant un taureau, Shaya Mitraker Bakotel, qui est en train de se gratter contre un mur. Ah, du style, voilà, ça le gratte un peu, il se gratte contre le mur. Voilà, ça m'a rappelé quand je suis parti en été, on est parti faire du poney avec les enfants. Et je me rappelle à un certain moment, on a vu deux poneys se gratter l'un contre l'autre. Il n'y a plus de mur. De fois, ça les gratte. Bon. Donc, Shor Shaya Mitraker Bakotel, la Gemara explique, elle dit attention, pourquoi il se gratte? Pas pour se nettoyer. Il se gratte pour son plaisir. Bon. Venafal. Le mur est tombé. Non, il s'est gratté. Maintenant, le mur n'a pas tenu. Hein, combien de force, un taureau? Bon, c'est costaud.
C'est très puissant.
Le mur est tombé. Et il est tombé, bien sûr, sur qui? Dommage collatéral. Il est tombé sur qui? Il est tombé à la dame sur un or. D'accord? Parce que là, maintenant, le propriétaire du taureau va dire, écoutez, moi, ok, il l'a tué, mais pas fait exprès. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien, Nitkaven la rogue et abema, verrag et adam. Bien, un deuxième cas, un taureau qui voulait tuer un animal et qui a tué un homme. Hein, comment c'est possible? Alors, on va essayer de faire travailler l'imagination.
Mais deux taureaux qui se bagarrent,
deux taureaux qui se bagarrent, il a envie de tuer, on le voit, il a envie de tuer, il y a un homme qui vient qui essaie de défendre la situation.
Il prend
le coup.
Les exemples d'avant, c'était quand il encornait le...
Ah voilà. Dans les exemples d'avant, le cas que parle la Torah dans la Parasha Mishpati, c'est qu'il tue un homme en voulant tuer un homme.
D'accord. Bon. Là, il n'y a pas la volonté.
Là, c'est clair. Il n'y a pas c'est sans équivoque, on expliquait, on le met à mort, etc. Ou bien il doit payer. D'accord. Là, c'est un autre cas.
Viens avec nous.
D'accord. Là, c'est un autre cas. Là, c'est un cas que le taureau ne voulait pas encorner l'homme. Il voulait pas encorner l'homme. Donc, ou bien... Il voulait pas du tout encorner personne, il était en train de se gratter, il a fait tomber un mur, qui a tué quelqu'un. Ou bien il voulait tuer un animal, et cet animal, d'accord, on lui tue l'animal, il a tué un homme. L'anochi, vera gat Israël, pareil, il voulait tuer un non-juif, d'accord, et il a fini par tuer un juif.
Ah.
L'anfalim, vera gat kayama, on avance.
Oui, on avance, moi je dirais on recule.
L'anfalim, vera gat kayama. Il voulait tuer Nephalim, c'est-à-dire il voulait tuer un Nephel en hébreu. Nephel, ça veut dire le mot Nophel. D'accord? Nophel, ça veut dire quoi? Ça veut dire un nourrisson que les médecins ont dit que normalement il vivra pas plus qu'un mois. D'accord?
Il était condamné.
Donc alarquement, quand d'ailleurs, il faut savoir que la raison pour laquelle pour le Pidyon HaBen, on attend toujours 30 jours, parce que pour le Pidyon HaBen, on doit s'assurer que l'enfant, d'accord, n'est pas Nephel, qui est viable, qui va tenir. Comme à l'époque, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient avant cette date-là, donc c'est pour ça qu'on a fixé qu'il faut attendre 30 jours. Une fois qu'il a vécu 30 jours, on dit, ah, cet enfant est viable, il peut aller plus loin. Je sais pas, on dit en médecine ce qu'on dit aujourd'hui, je sais pas comment ça se passe, 30 jours, ça existe toujours cette...
Oui, non, mais c'est sûr que...
Bon, aujourd'hui, les choses ont changé.
La génération de nos arrière-grands-parents, il fallait...
30 jours.
Deux enfants pour faire un adulte, tellement il y avait de mortalité.
Ah oui, c'est très bien. Une fois qu'il arrivait à 30 jours, c'était déjà un signe.
Bon. La mortalité infantile était une catastrophe.
Donc la Nephel, Varak Ben Kayama. Donc si le taureau maintenant, le taureau voulait tuer un enfant, voulait tuer donc un nourrisson, quelqu'un qui était Nephel, quelqu'un qu'on savait qu'il allait partir. Et à la place de celui-là, qui il a tué? Ben Kayama, il a tué. Ben Kayama, ça veut dire un taureau qui est un enfant ou un adulte qui tient.
Diable.
Alors c'est quoi le point commun qui est entre tous ces cas qu'on vient de dire?
C'est qu'on passe du plus faible au plus fort.
C'est que le taureau n'a jamais voulu tuer un homme. Soit il s'est accroché contre un mur, soit il voulait tuer un autre animal, soit il voulait tuer... c'est le troisième cas. Soit il voulait tuer un non-juif et il a tué un juif, d'accord? Soit il voulait tuer un enfant qui n'était pas viable, il a tué un enfant qui était viable. Le point commun entre tous ces quatre cas, c'est quoi? C'est que le taureau ne voulait pas tuer un homme. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on doit appliquer la règle que la Torah a dit dans la Parasha Mishpatim, que quand un taureau tue un homme, il doit être mis à mort. D'après vous, qu'est-ce que vous pensez? Le taureau doit être mis à mort dans ce cas-là ou pas? Dans ces quatre cas qu'on vient de dire. C'est la même chose. C'est quatre cas, un peu différent, mais le point commun, c'est ce que je viens de dire. C'est qu'il voulait jamais tuer un homme. Jamais il voulait toucher un homme. Est-ce que le taureau doit être mis à mort?
Non. Non.
Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi?
L'argument tout à l'heure.
Là, il voulait jamais tuer un homme.
Si, si vous voulez tuer un païen, il tue un juif.
Ah oui, il voulait pas tuer un juif.
Non, mais ça dit un homme.
D'accord, c'est pas le même cas. T'as raison.
Alors, si... il y a un juif alors, quoi qu'il y a un homme.
D'accord. S'il tue un juif, d'accord. Mais quoi, est-ce qu'on lui applique les lois comme s'il a tué un juif ou comme s'il voulait tuer un goy?
D'accord. Moi, mais alors, l'inverse, la question se pose même pas, l'inverse alors.
Pour moi, un taureau n'a pas de volonté, donc on regarde pas la volonté, on regarde le fait.
Le fait. Ah oui, mais on est obligé de faire attention à la volonté, puisque on a vu que dans le concept de Mouad et de Tam, d'accord, on a vu que la volonté était très importante, parce que c'est par rapport à la volonté qu'on a déterminé est-ce qu'il est averti ou non averti. Des fois, il peut être averti pour un point et averti pas pour un autre point. C'est-à-dire qu'on considère que le taureau a un cerveau, le taureau a des habitudes, le taureau, c'est très important.
C'est des réflexes.
D'accord?
Bah oui. Si on connaît le juif, le non-juif.
Bah nous, il n'y a pas des maris que les goïs ne vont pas.
Alors qu'est-ce qu'on fait?
Non. Mais attends, le cas.
D'accord?
Quand tu dis, pardon, c'est marqué la Mishnah, si vous voulez tuer un païen, il tue un juif. D'accord? Ok. C'est vraiment marqué, à fortiori que si vous voulez tuer un juif, il tue un non-juif.
Si. Non, là, pas. Là, on parle d'un cas. Oui, j'ai compris, on parle pas de ce cas. Pourtant, on parle du cas de la Mishnah. C'est quoi le din? Le din, il est que patour. Patour, il est patour, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne met pas le taureau à mort. Alors, attention. Ça ne change pas que si le taureau a été averti, parce que trois fois, par exemple, il a cherché des hommes, c'est sûr qu'il devra payer la rançon. D'accord? C'est-à-dire soit 30 pièces, soit la valeur que le Bedin, des dommages intérêts que le Bedin fixera. Mais on ne le met pas à mort.
Même quand c'est, un volontaire.
Non, justement, parce que c'est un... Non,
parce qu'il a été averti. Attends, il a été averti, mais là, ça fait pas partie des avertissements.
Ah, si.
Il a fait de façon puisqu'il involontaire.
A été... Justement, puisqu'il a été averti, il a été averti trois fois, bien que dans ce cas-là précis, c'était presque involontaire, il devra payer le coffert. Ça, il devra payer... Ah oui, c'est normal. Attends, c'est trop...
Il mais il passif. Sera pas mis à mort.
Mais il sera pas mis à mort.
Voilà, c'est ça la différence.
D'accord. Ça veut dire que le chidouche de la Mishnah ici, c'est que le din de la Torah dans la Parasha Mishpatim qui dit que le taureau doit être mis à mort, c'est seulement si le taureau voulait tuer un homme.
Vraiment. S'il avait l'intention de...
Quand il voulait tuer un homme, juif, viable.
Et ça, c'est le din qui le décide, bien sûr.
Bien sûr.
C'est étonnant, le cas du mur, là.
Oui.
Aucun rapport avec les avertissements, bon. Même si ça n'a rien à voir.
Non, mais un taureau, c'est un animal
qui est élevé par
son maître. Depuis qu'il est tout petit, ils sont en symbiose, le taureau et son maître. Et donc, il lui apprend, il le guide. C'est comme un dresseur de chien, comme ton chien, si
il le connaît.
Un pitbull qui mord, ou si ton chien, il a été dressé. Tu n'as jamais vu des chiens qui sont d'une puissance extraordinaire, ils se tuent entre eux, dès qu'ils voient un homme. Ils sont très gentils.
Ouais. Bon,
parce qu'ils ont été dressés, élevés, éduqués. Le taureau, c'est pas lui qui est coupable, mais... c'est son maître. Maintenant, qui a que ça pour vivre?
Comme l'homme. Ah, comme
on est d'accord. Non, mais, même si c'est protégé contre un mur. Ce qu'on comprend, c'est que ce taureau. Ce qu'on comprend, c'est que ce taureau.
C'est pas dans leur nature.
Ah non, c'est l'éducation.
Non, je pense pas.
C'est qu'il a une force incontrôlable. Le problème ici, c'est que ce taureau, apparemment, ne contrôle pas sa force. C'est ça le problème. C'est ça le vrai problème ici. Puisque ce taureau ne contrôle pas sa force, c'est pour ça qu'on se dit, même si dans les faits il s'est cogné contre un mur, mais il a du passif ce taureau, c'est pas venu d'aujourd'hui. Donc, il faut payer. Il a tué un homme, il faut payer. D'accord ? Quelle heure il est ? Ça va être là ?
Ouais.
Alors, ça
va être là. On a fini la 7. La 6.
Ouais, la 6.
Il y a plus ces problèmes, hein, parce que faut savoir.
Il y a d'autres problèmes.
Mais non, il y a d'autres problèmes équivalents en fait.
Les taureaux, aujourd'hui, on.